Midi Martini. Et c'est reparti pour un tour.
Je suis là encore, mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui n'aiment pas ma grosse voix vont encore se la taper, ou presque pendant une heure. Quoique, mes amis, je ne suis pas toute seule à cette émission Midi Martini et j'en suis bien contente. Je suis aujourd'hui entourée de Mathieu Drujon, qui va nous présenter une chronique de kinésiologie. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
J'ai aussi à côté de moi Catherine Lefebvre, nutritionniste, auteure de Les carnivores infidèles. Ça va bien Catherine?
Oui, ça va bien. Merci.
Et puis nous allons aussi recevoir une jeune femme dont le métier est de promouvoir nos chiens. Elle s'appelle Émilie Rivard et on pourrait l'appeler Sœur Sourire, elle qui a appelé son groupe, son organisme Chien Sourire. Alors comme tous les jours à cette émission, nous allons commencer ça par un petit brise-glace. Hein? On aime ça s'exprimer. Et là ils se disent, de quoi est-ce qu'on va parler encore aujourd'hui? Eh bien, on a décidé de revenir sur Paul Hood. Vous savez que Paul Hood, c'est un type très, très sérieusement qui aurait voulu devenir pilote d'avion. Il est complètement fanatique d'aviation. Et là, ce qui s'est passé, vous avez peut-être entendu parler ou lu des choses sur le sujet, c'est qu'il a tenu à reprendre le vol entre Amsterdam et Kuala Lumpur, le vol qui a été interrompu abruptement, c'est le moins qu'on puisse dire, par un missile alors qu'il survolait l'Ukraine. Alors, il y en a qui disent « Ah, waouh, wow, c'est extraordinaire, c'est formidable, c'est génial, c'est... » En tout cas, tous les qualificatifs sont là. Et il y en a d'autres qui disent « C'est quoi l'affaire ? C'est quoi ? C'est pourquoi il a fait ça ?» Il paraît même que ça se déchaîne sur les réseaux sociaux. Mmh. Alors, je voudrais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous semble sain, cette affaire-là ? Qu'est-ce qui a bien pu le motiver ? Est-ce que vous voulez commencer, Christiane?
Mais je dois tout d'abord dire
Campagna.
Oui.
En fait, que je ne vous ai pas salué, Christiane, bon. qui est avec nous, et puis
bonjour.
Martin Dupuis aussi, qui va participer à notre...
Bonjour.
Pardon, Christiane.
Vous savez qu'à midi 14h, en saison régulière, je fais des chroniques sur ce qui se passe sur les médias sociaux. Hier, j'étais bien déçue de ne pas en avoir une, parce qu'avec ça, avec Paul Hood... avec Paul Hood et avec Lise Thibault, c'était déchaîné sur les médias sociaux. Ça, parce que, avant de vous dire ce que j'en pense, bon, l'aventure de Paul Hood a donné naissance à un nouveau phénomène, même à un nouveau mot-clic sur Facebook et surtout Twitter, qui s'appelle le Paul Hooding, qui consiste à refaire ce genre de choses. Alors, il y a Éric Sanson d'Urbania qui a refait le trajet... métro Place des Arts, métro Joliette, parce qu'il y avait eu une panne le 22 juillet sur ce trajet-là. Et il reprend mot pour mot les sections de l'article sur le TVA Nouvelle où on décrit l'aventure de Paul Hood. Et il y a le navet qui a créé un article où Paul Hood refaisait le voyage de Magellan autour de la Terre et attrapait le scorbut.
Non, parce que...
Mais je pense justement qu'on choisissait d'en rire ou de faire ces choses-là. C'est quand même une manière parfois de dénoncer là, d'une certaine façon. Parce que moi, je suis de ceux qui trouvent ça un peu indécent.
Oui.
Je ne dis pas s'il le faisait dans 10 ans, là, ce serait une affaire peut-être plus personnelle. Là, mais pendant qu'il y a encore, même si c'est pas je ne suis pas trop au courant sur s'il y avait des ressortissants canadiens sur l'avion. Mais je trouve ça un peu tôt pour aller se payer ce genre de trip, qui est une forme de trip d'adrénaline quand même. Là. Mais on a beau dire que je suis un passionné de l'aviation.
Ça sert à quoi? De refaire tout le même chemin?
Je ne peux pas mettre ça, disons, dans le même sac que les gens qui vont faire la reconstitution d'une bataille qui a lieu au 18e siècle. Là. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas le même aspect. Il n'y a pas d'aspect éducatif. Il n'y a pas... Oui, surtout à cause de la proximité de l'événement, je trouve ça, inutile. Deux, il doit avoir des choses plus utiles à faire avec son argent.
C'est ce que j'allais dire, parce qu'en plus, ça doit coûter une fortune, cette affaire-là. Parce qu'attends, il n'a fait que ça. Hein? Il n'a pas fait ça en se disant, tiens, puisque je suis à Amsterdam, alors, tiens, puisque je m'en vais à Kuala Lumpur, reprenons le même vol. C'est pas ça qu'il a fait. Il est allé exprès. En tout cas, je sais pas. Vous, Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Drujon?
Moi, je pense que c'est tout. Il fait bien ce qu'il veut de son argent. Il l'utilise bien comme il veut. Il est passionné d'aviation. Pourquoi pas? Moi, là où j'ai un peu plus de mal, c'est pourquoi le rendre public à ce point-là? Pourquoi? Si vraiment c'était par passion de l'aviation qu'il l'avait fait, il aurait très bien pu le faire sans en faire étalage.
Ça, c'est vrai.
Et pourquoi le documenter à ce point là? On voit dans l'article qu'il prend des notes, il a tenté de prendre des photos, des vidéos, qui d'ailleurs ont été demandées d'être retirées par la suite, pour certaines en tout cas. Pourquoi pas le faire maintenant? Pourquoi en vouloir en parler autant? Je sais
mais
pas.
À ce moment-là, est-ce que c'est encore au niveau médiatique qu'on aurait dû taire ça, puis après tout, qu'il ait vécu son trip, mais je vais vous dire une...
Mais c'est un personnage public après, alors...
Oui, et puis j'ai une nouvelle pour vous, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles en ce moment.
C'est l'été. C'est
manque de sujets.
Alors, vous savez, je ne devrais pas dire ça, parce que l'été dernier, on en avait un énorme, sujet qui a été Lac Mégantic et dont on se serait volontiers passé. Alors, en même temps, je ne veux pas trop me plaindre non plus, parce que des drames comme cela, on sait que... Est-ce que vous avez une opinion, Catherine, sur le sujet?
Moi, je pense que je vais essayer d'être... la masse, puis d'essayer d'espérer que... en fait, je suis certaine que Paulude avait beaucoup d'empathie en faisant ça. Oui. Puis d'une certaine façon, ça me fait penser au super bon texte de Pierre Foglia sur ça, que lui, il s'est imaginé, en fait, être dans la peau d'un des passagers. C'était super beau, son texte.
Ben, je l'ai lu,
Bon, il le fait dans sa tête, puis c'est probablement par empathie aussi. Puis effectivement, Paulude, il fait ce qu'il veut avec son argent. Il est passionné d'aviation. Peut-être que ça l'a profondément touché. Inévitablement, ça l'a profondément touché
comme tout
le monde. Puis aussi, c'est pas comme s'il était seul dans l'avion, dans le sens qu'il y a des gens qui ont eu le courage de reprendre ce vol-là. Moi, je voyage beaucoup, j'ai pas vraiment peur de prendre l'avion, mais avoir pris ce vol-là, on peut pas...
Non, c'est sûr, on y pense.
On y pense.
Sans compter qu'il survole encore les mêmes régions.
Oui, c'est ça. Donc oui, on a tout... Tu sais, vraiment, tout le monde a raison d'avoir un peu peur. Mais effectivement, tu sais, c'est sûr que s'il en parle à un média, un journaliste, ça va faire boule de neige, comme ça a fait. Fait qu'après, est-ce que c'est de le garder pour soi puis de justement partager cette expérience-là un peu plus tard, sans que ça soit le côté sensationnaliste? Tout ça. Donc, voilà.
Mon cher Martin, est-ce que vous avez une opinion sur ce sujet délicat?
Mais j'ai aucune opinion sur la démarche individuelle. J'ai pas suivi l'histoire de près, ceci étant dit, là, j'ai pas tous les détails. Mais j'ai pas d'opinion sur une démarche personnelle. Ce que j'entends, c'est que c'est lui qui a décidé de faire ça par propre intérêt. À partir du moment où il y a un traitement public de la chose, je trouve ça d'une banalité absolue. Principalement parce que c'est un avion de ligne commercial qui fait cette liaison-là de façon régulière avec des centaines de personnes à bord de façon régulière. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel à ce que Paulude ait fait le périple puis pris des notes minute par minute? C'est pour moi d'un total désintérêt.
Sans compter que, il le précise dans l'article de mémoire, il parle, là c'est pareil, comme c'était le même type d'appareil, il y avait à peu près 300 personnes aussi, des femmes, des enfants, des hommes d'affaires. Oui, évidemment, quand tu prends l'avion, il y a forcément des femmes, des enfants, puis des femmes. Je suis contente, je vous remercie beaucoup, Catherine Lefebvre, que vous ayez fait référence à cet article, à cette chronique de Pierre Foglia, que j'avais lu d'ailleurs à l'émission Au quotidien, et qui était tellement brillante, où c'est comme s'il était dans l'avion.
Oui,
et là alors il nous parlait d'un tel qui se curait les dents, de
scène typique d'avion.
Scène typique d'avion, tout à fait banal, de la fille qui ne se rend pas compte qu'elle va voyager pendant 25 heures, puis qui s'est mis un petit tailleur, puis qui n'arrête pas de descendre comme ça le tailleur. Non, mais c'est vraiment là tout. Mais ce sont
c'est
tout.
Une bonne imagination, c'est très réaliste.
C'est tellement réaliste, c'est tellement ça. Et puis voilà, et puis tout d'un coup, en dessous, on se retrouve sur la terre ferme, et là, c'est une discussion entre deux soldats. Hey, as-tu vu, machin, quand je déplace ça, là, comme ça, là, puis que, tu vois, là, le petit point là-bas dans le ciel, quand je déplace, c'est le petit carré, là, puis que le petit point là dans le ciel, là, quand il arrive dans le petit carré, là, tu vois, il suffit que j'appuie là-dessus, puis boum, dans 12 secondes, il n'y en a plus. Puis l'autre qui dit, oui, mais attends, fais pas le con. Et c'est l'imagination à Foglia, et finalement, il appuie. Et donc là, on sait maintenant qu'il y a 12 secondes. Et là, c'est retour dans l'appareil. Où là, on revoit, et à nouveau la fille, pour la 300e fois, qui se plisse la jupe, et l'autre qui a finalement réussi à s'enlever le petit bout qu'elle a dans les dents. Ça, c'est tellement d'une force inouïe, quoi. C'est tellement... Alors, je vous remercie beaucoup, Catherine, de l'avoir évoqué, parce que je l'avais oublié, et je pense qu'effectivement, vous avez raison, c'est tellement plus intelligent. Puis, vous aussi, Mathieu, vous avez bien raison de dire que finalement, il fait bien ce qu'il veut, et de son fric, et de ses envies de voyager, mais on n'a peut-être pas besoin, de l'étaler comme ça sur des pages entières. Je pense qu'on va manquer de temps pour un deuxième sujet. On va se garder ça pour une autre fois. Qu'est-ce que vous en pensez? On va se demander à un moment donné si l'uniforme fait l'autorité. Vous vous demandez bien à quoi je fais référence. Allez, on y va en musique avec Benabar. À votre santé.
Excès, font gaffe à tout et se surveillent de près. Avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce, mais leur capitale santé mérite des sacrifices. Ils boivent de la bière sans alcool, elles mangent pas de viande, ça donne du cholestérol. Ils boivent leur café décaféiné avec du sucre et sucrifié. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Elle met de la crème anti-âge, qu'elle combine avec un doux gommage, qui restructure en profondeur les macromolécules, en hydratant le derme contre les rides et les ridules. Comme il redoute l'effet peau d'orange, elle a eu un rameur pour leurs 10 ans de mariage. Il dit qu'il aime le sport, pas la compétition. C'est quoi ses coupes, ses médailles, bien en vue dans le salon? Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto et boire des apéros. Les cheveux blancs des vieux, les enfants dépeignés, les rides au coin des yeux, les doigts dans le nez, le bordel, le désordre et le bruit, le pas bien rangé, le ça peut plus durer à notre santé. Des fois un criminel allume une cigarette, elle le fusille du regard et court vers la fenêtre. Elle dit ah de l'air, c'est vivifiant, et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement. Il a des bombes qui vaporisent du poison contre tous les insectes de la création. Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies. Il a des doutes sur ses voisins, mais les tuer c'est interdit. Et ses voisins, j'en fais partie. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros.
Benabar chantait à votre santé, justement, à ma santé. Moi, c'est comme ça que je me sens, parce que entourée par une nutritionniste et par un kinésiologue, la fille qui, à part le golf, ne fait quasiment rien et qui ne fait plus de régime depuis 6 ans. Alors, mais c'est assez extraordinaire. Moi, j'adore cette émission. Mathieu, oui. Mathieu Drujon, on commence par vous,
allons-y.
L'ami kinésiologue. Les enfants doivent-ils faire de la course à pied? C'est un peu le sujet de votre chronique d'aujourd'hui.
Exactement. En fait, je fais référence à un article qui est paru...
Allons-y. Trinquer. Attendez, on va trinquer avant.
À notre santé, justement.
Catherine, oui. Catherine, à la vôtre. Martin, à la tienne aussi. Attends, clique, voilà. Voilà, parce qu'il faut que ça s'entende.
Ah, oui, un peu loin, mais...
Et là, maintenant, on vous écoute. Pardon, hein, Mathieu, mais vraiment, je trouve ça important. Tu ne peux pas faire midi bon. Martini sans trinquer.
Donc oui, un article qui est paru dans la presse cette semaine, un dossier même, plutôt, je pourrais dire, rédigé par Marie Allard, qui fait référence à la course à pied chez les enfants et qui se présente d'abord en expliquant que, on le sait, la course à pied est de plus en plus populaire. Mm-hmm. depuis plusieurs années chez les adultes, notamment. Et là, évidemment, si les parents font plus de courses à pied, on s'entend que les enfants suivent les parents. Et on s'est rendu compte, là, dans cet article, si on le lit, qu'il y a de plus en plus d'enfants qui participent à des courses pour enfants, donc que l'on pense ou que l'on souhaite être adapté à leur âge. Elle donne comme chiffre, on peut donner par exemple en 2007, c'était sur une course qui a eu lieu, qui s'appelle le Petit Marathon, une course d'un kilomètre, donc une petite distance adaptée aux enfants. C'était à peu près 500 participants en 2007. Ah ouais. Et l'année dernière, c'est 4 fois plus.
Mais ici à Montréal?
C'est une course qui a eu lieu, oui, à Montréal.
Okay.
Et donc l'année dernière, 2000 et plus participants. Mm-hmm. Donc on voit vraiment là, une explosion de ces activités-là. Et donc on se pose la question, est-ce qu'il faut laisser nos enfants courir finalement ? Et j'aime dans ce dossier-là, on traite plusieurs termes, puis on a des pour, on a des contre, et on va les regarder ensemble aujourd'hui.
D'accord.
La première chose, c'est faut-il les laisser courir ? Je pense que si on s'arrête à cette question-là, la réponse est assez évidente, oui. Les enfants courent, ils courent tout le temps, tous les jours. Ça fait partie de leur mode de vie. Bien souvent, ils courent plus que les parents ou les adultes, que ce soit à l'école ou dans leur activité de tous les jours. Donc, si on se limite à cette question-là, on a la réponse toute faite qui est oui, laissons-les courir, il n'y a pas de mal à ça. Mais la question qui suit souvent et les interrogations auxquelles on fait face, nous, en tant que kinésiologues ou même en tant que parents qui sont légitimes, c'est est-ce que c'est dangereux pour nos enfants de courir ou même de trop courir ? Est-ce qu'on pourrait trop courir ? Et là, je pense que c'est très clair. On le sait, non, ce n'est pas dangereux. Il n'y a pas de problème particulier à laisser nos enfants courir. Même au contraire, on sait que ça a des effets très bénéfiques pour leur développement moteur, pour leur développement physique. On parle ici d'une activité où on met en charge le corps avec une résistance sur tout le système osseux et ça vient développer notre densité osseuse et on sait que ces effets-là sont beaucoup plus importants et bénéfiques avant la puberté. Donc on parle de 12 ans et moins par exemple si on fait une généralité de tout ça. Donc non, ce n'est pas dangereux. Maintenant, est-ce que cela signifie que l'on doit entraîner nos enfants à la course à pied? C'est là, je pense, le nerf de la guerre de cette question-là dans « faut-il les laisser courir ?» On voit qu'il y a des organisations, des organisateurs de courses qui veulent attirer cette clientèle-là ou qui veulent attirer les parents peut-être plus en proposant des activités pour les enfants avec des distances qui peuvent être de 1, 2, 3, 5, voire même jusqu'à 10 km. Mais est-ce qu'on risque, en faisant ça, de vouloir rendre l'activité trop compétitive et donc vouloir que les parents entraînent leurs enfants pour qu'ils deviennent meilleurs là-dedans? Puis c'est là, vraiment, je pense qu'il faut s'arrêter. Et là où il peut y avoir des risques de dérive. La première chose, c'est dans l'entraînement, il faut garder en tête qu'on parle là d'enfants et que les enfants, ce ne sont pas des adultes miniatures. Donc, on ne peut pas transposer... ce qu'on ferait avec des adultes en disant on va faire la même chose mais un petit peu moins intense parce que ce sont des enfants. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un enfant, ça a une physiologie qui lui est propre. Il y a des développements qui ne sont pas encore faits au niveau de ses capacités physiques. Donc, il faut faire attention à ça. Puis, certainement, le premier point qu'il faut aborder, c'est la notion de plaisir chez les enfants. Ils font toutes sortes d'activités, ils en font beaucoup, mais la course à pied est peut-être celle où on pourrait avoir le plus de risques de monotonie. On s'entend que courir pendant 2-3 km sur du plat, il n'y a pas forcément, si on le prend tel quel, d'intérêt ou la difficulté de trouver du plaisir chez les enfants. Alors, si on veut transposer ce qu'on fait avec des adultes dans l'entraînement de course à pied à des enfants, on risque complètement de perdre cette notion de plaisir-là. Alors, c'est important, si on veut le faire, de trouver ou de peut-être de mettre la course à pied comme au second plan d'une activité plus ludique. La course à pied, ils en font dans plein d'activités, le soccer. Le soccer qui me vient en tête parce qu'on en parle dans le dossier. Mais, puis je vais revenir un petit peu plus tard au soccer. Mais si on veut que nos enfants s'entraînent, déjà, il faut que ça vienne d'eux. Il faut que ce soit eux qui manifestent l'intérêt de vouloir faire de la course à pied. Ce n'est pas à nous, en tant que parents ou en tant que coach, de pousser nos enfants à vouloir... D'ailleurs, c'est vrai pour n'importe quel sport. Il faut que ça vienne d'eux à la base.
Ou activité.
Oui, on parle de sport, mais ça peut être n'importe quelle activité que l'on peut faire pendant l'été. Ensuite, un point un peu plus technique, c'est que chez les enfants, on a, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, un système énergétique qui est plus développé que chez l'adulte, qui permet aux enfants de pouvoir faire plein d'activités très courtes, très intenses et de récupérer très vite. On le voit, on a l'impression que les enfants nous épuisent parce qu'ils courent 5 minutes, ils s'arrêtent 2 minutes, ils sont prêts à repartir à la même intensité, puis nous on a du mal à suivre. Et ça, c'est simplement dû au fait qu'ils sont plus développés sur ce système-là. Donc si on veut les faire courir, ben, on peut les faire courir ce qu'on appelle par intervalle. Donc une partie de course à pied, une partie de marche, ou course à pied, marche, et on alterne ça. Donc ça, c'est une possibilité. Mais je pense que le plus important, c'est de varier les activités que l'enfant va faire. On veut éviter l'hyper-spécialisation jeune. Très jeune de nos enfants. Oui.
Mais en fait, moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait par rapport, comme là, on parle de la course, puis c'est bon, c'est pas bon, mais des enfants qui s'entraînent, comme je pense, à la gymnastique, au patinage artistique, ou même au hockey.
Le hockey,
mon frère a commencé à jouer au hockey.
C'est assez fou.
Je sais même pas s'il était à la maternelle.
Oui.
Puis... Bon, c'était pas, ils s'entraînaient pas pour les Olympiques, là, évidemment, mais puis c'était évidemment moins intense que la gymnastique aussi. Mm-hmm. Les petites filles très jeunes, bon, là, moi, j'entre avec mon côté nutrition, mais les troubles de comportement alimentaire qui s'en suivent souvent. Mais si l'enfant justement manifeste de l'intérêt et bon là-dedans, puis justement lâche son fou, puis ça donne une petite pause aux parents, ou je sais pas, tu sais, c'est quoi la différence entre la course puis la gymnastique?
Il y en a pas vraiment. C'est vrai que le hockey, c'est un bon exemple. On est fanatique de ça, puis on se retrouve avec des parents qui même se sentent valorisés par le fait que leur enfant performe. Mm-hmm. Bon, là, on parle de performance déjà très jeune. Sauf qu'on sait que une hyper spécialisation, donc centraliser un seul sport très jeune, c'est le principal facteur d'abandon dans la pratique d'un sport. Donc à tous les parents qui nous écoutent, à vouloir peut-être trop pousser leurs jeunes à faire que du hockey, c'est risqué qu'ils abandonnent ou qu'ils s'écœurent finalement.
Moi aussi j'en ai une question et je pensais que c'était peut-être là que vous alliez en venir et non finalement. Alors moi ma question c'est que il y a quelque chose dans... Est-ce qu'en ce moment, de vouloir faire courir des gamins, est-ce que ce n'est pas non plus par réaction à leur inaction? Parce qu'on dit tellement que les enfants d'aujourd'hui ne courent plus assez, ne bougent plus assez. Alors, parce qu'il y a énormément d'adultes qui font ça. Tout d'un coup, allez hop, on n'a jamais couru, mais là, on se met à la course à pied. D'ailleurs, sans faire attention souvent à son cœur, à son poids, à son truc, et généralement, on se fait mal aux genoux, on se fait mal partout. Mais enfin bon, c'est encore autre chose. Et je me dis... alors. Voilà ma question. Est-ce que ce n'est pas une réaction à l'inaction? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit phénomène de mode?
Alors certainement, pour la course à pied, il y a un phénomène de mode. Maintenant, mon opinion là-dessus, c'est de dire effectivement, bon, dans notre société, que ce soit la société québécoise ou toute société qu'on va dire plus développée, j'aime pas ce terme-là, mais on voit qu'il y a une augmentation de l'obésité dans la population, et on voit surtout ce qui est le plus effrayant, c'est que ça commence de plus en plus jeune. Et que nos jeunes actuellement au Québec sont de plus en plus obèses, il ne faut pas se le cacher, c'est une réalité.
Mais par contre, il y a des gens qui ne courent pas et qui ne seront jamais obèses non plus.
Non, mais c'est là où ça devient intéressant de faire la notion d'activité physique versus un sport. Et la course à pied, ça a cette beauté que c'est une activité qu'on peut pratiquer très facilement.
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est certainement la raison principale de cette popularité grandissante. Moi, je suis très pour le fait qu'on encourage nos enfants à courir davantage ou à faire plus d'activités. Mais à courir, pourquoi pas? C'est une très bonne activité qui développe plein d'habiletés musculaires qui sont...
qui est moins cher que d'être gardien de hockey.
Oui, en plus, qui est beaucoup plus accessible. Maintenant, on voit aussi que des enfants qui manifestent un intérêt par eux-mêmes à la course à pied, c'est de plus en plus régulier. Ça a tendance aussi à tirer les parents à se mettre à bouger plus, que ce soit pour suivre. Moi, je vois sur des événements sportifs des parents qui ont de la difficulté à suivre leurs enfants. C'est malheureux, mais sur une course d'un kilomètre, souvent, les parents sont encouragés à courir avec leurs enfants, forcément, pour les motiver. Puis, on se rend compte que des parents ont de la difficulté, puis que des parents, par contre, font l'effort de bouger avec leurs enfants. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Mais il faut le faire dans certains guides qui sont garder le plaisir, varier ces activités-là. Puis finalement, si j'ai le temps, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la Fédération québécoise d'athlétisme, donc qui est l'organisme qui est supposé gérer les différents événements qui ont lieu à Montréal et au Québec, ont défini des normes de distance En fonction de l'âge des participants. Donc, par exemple, des enfants qui ont 7 ans et moins, on va privilégier une distance d'un kilomètre. Puis ça va en augmentant. 8 à 11 ans, c'est 2 kilomètres, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. Bon, là, la fédération répond à une interrogation des parents qui est-ce qu'il y a un risque qu'ils en fassent trop. Maintenant, par contre, il faut savoir que les organisateurs ne sont pas tenus de respecter ces guides-là. Donc, un organisateur de course pourrait tout à fait dire, ben, moi, tous les enfants qui ont en bas de 18 ans peuvent faire 1, 5 ou 10 km, par exemple. Et là, c'est à la liberté de l'organisateur de juger du bon sens de sa course.
Mais moi, il y a quelque chose là-dedans. Permettez-moi encore une fois, parce que ça, avec moi, il faut s'habituer. Je me ferai souvent l'avocat du diable. Est-ce que vous ne trouvez pas que de baliser les choses comme ça, en dessous de 7 ans, 1 km, en dessous de 2 km, vous ne trouvez pas que c'est dire que, par exemple, si on prend un groupe de 500 mômes qui vont courir 1 km, c'est d'identifier les 500 gamins comme s'ils étaient tous identiques. Ils ne sont pas tous identiques. Il y en a qui ont peut-être déjà en eux un...
Oui, tout à fait.
Alors, et moi, ces espèces de balises-là, il y a quelque chose là-dedans qui me dérange
si
un petit peu.
Ça met tout de suite la notion de compétition, ouais. Dans le sens comme on peut être, si on rentre dans la tranche d'âge où on devrait être capable de courir X kilomètres,
c'est ça.
Puis qu'on ne court pas autant. Puis
là-dedans, tu as peut-être un gamin qui a eu une fracture un an avant versus un qui court depuis l'âge de 2 ans.
Moi, je le vois plutôt à l'inverse. Avec Adrien à la maison, il est un peu plus vieux, il a 15 ans, mais quand même, il démontre un intérêt pour faire de l'entraînement physique présentement, pas de la course. Puis moi, je lui dis oui, mais vas-y mollo. Puis en fait, j'ai une question pour savoir, parce que j'avais cru comprendre que s'il y a une trop grande intensité dans la pratique d'une activité, pendant la période de croissance, il peut y avoir des effets limitatifs sur la croissance. Est-ce que c'est vrai
non,
ou est-ce
c'est
que c'est
faux.
Un mythe?
Ce mythe-là vient principalement, je parle pour l'entraînement physique, donc de musculation, vient principalement du courant de pensée de l'haltérophilie, qui est de dire que tous les champions olympiques d'haltérophilie qui ont certainement soulevé des charges extrêmement lourdes pendant toute leur croissance, sont très petits. Sauf qu'on prend le problème à l'envers, c'est que parce qu'ils sont petits, qu'ils sont rendus là. Et non pas parce qu'ils s'entraînent, qu'ils sont rendus petits. Ouais. Et en fait, non, bien souvent, c'est même l'inverse. Le fait de l'entraînement bien encadré en fonction pendant la croissance et la puberté chez les hommes, chez les garçons, c'est la puberté qui donne référence, amène des bénéfices beaucoup plus grands. Mais ça demande d'être encadré. C'est là le terme, je pense, le plus important. Puis je reviens sur le fait de dire, oui, les courses pour les enfants, c'est limité par l'âge, puis c'est compétitif. C'est vrai que moi, c'est deux points qui me dérangent un petit peu. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on les segmente par âge? On sait que les enfants ont des très grandes différences de croissance. Et il a été démontré qu'on devrait d'abord les catégoriser par poids et par taille plutôt que par âge. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est l'esprit de compétition. Moi, je participe beaucoup, le sport que je pratique, moi, c'est les courses à obstacles. Alors, c'est des courses de trail en montagne qui sont de plus en plus adaptées pour les enfants. Et les courses pour les enfants, moi, je me suis occupé notamment d'en organiser. Et il n'y a pas de classement. C'est tous les enfants qui participent ont le dossard avec le numéro 1
c'est
sur leur
ça.
Dossard.
Alors, c'est chouette, ça.
Et ça, voilà, là, on retrouve tous les ingrédients pour rendre la course agréable. C'est-à-dire que ce n'est pas monotone, on court en montagne, alors il y a des obstacles à franchir, les enfants adorent ça, ils grimpent, ils sautent, ils courent. Il y a des variations d'intensité, on monte, on descend, donc ce n'est pas la même intensité tout le temps. C'est des distances, oui, qui sont adaptées en fonction de l'âge, parce que malheureusement, c'est encore la façon la plus facile de segmenter. On n'ira pas peser et mesurer les enfants, 500 enfants qui arrivent. Mais on arrive à trouver comme ça des moyens détournés de leur faire prendre le goût à l'activité. Puis c'est vraiment ça là-dessus. Et je mets souvent l'emphase dans mes chroniques là-dessus. Mais surtout, c'est les enfants, c'est encore plus vrai. Ouais. Il faut que l'enfant manifeste un intérêt et un plaisir grandissant. Et on veut l'initier à plusieurs sports. Ça, c'est des fois un peu difficile à faire dans notre société avec les fédérations, les clubs, etc. Quand on inscrit notre enfant, on l'inscrit pour l'année au complet. Puis ça coûte souvent très cher. C'est difficile de pouvoir l'inscrire à 3 sports en
Exactement.
Même temps. Mais malheureusement, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Il faut essayer de les initier à plein de sports. C'est comme ça que l'enfant va développer ses habiletés puis un certain intérêt à un moment donné pour un sport.
ou ses intérêts ou le contraire, ou ses aversions.
Mais c'est là où le plaisir rentre en compte. C'est souvent quand les parents veulent les pousser dans une voie qui ne correspond pas à l'enfant. Ce n'est pas tous les garçons qui vont jouer au hockey, qui vont faire la Ligue nationale, même si tous les parents rêveraient de ça.
Non, c'est sûr. Mais pour la croissance, et on finira là-dessus, je voyais que ce matin, la joueuse de tennis Françoise Abanda, je pense que j'ai bien son nom, qui est cette petite... Je dis petite parce qu'elle est toute frêle, mais en fait, elle est très grande par la taille. Et elle a arrêté de jouer là, pendant quelques mois parce qu'elle souffrait énormément de douleurs de croissance.
Qui ne sont pas forcément reliées avec sa pratique d'activité physique.
Absolument pas. Mais sauf que l'entourage a dit « Wow, wow, on met un frein à ça. » Et là, elle ne souffre plus. Elle va faire la Coupe Rogers là, à Montréal. Et on est bien content pour elle. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci.
Tout ça est très, très instructif. On met un petit peu de musique. Et puis ensuite, je me tourne vers Catherine Lefebvre. Alors, nous sommes en compagnie de Catherine Lefebvre, nutritionniste. Catherine.
Oui.
J'ai l'impression de plus en plus que lorsque je fais mon épicerie, que mes aliments, ça ressemble plus à une posologie de médicaments qu'à une étiquette informative.
Oui, il y a beaucoup d'informations à gérer.
S'il y a beaucoup d'informations à gérer, et ce n'est pas fini, parce qu'on va encore en rajouter, on va en enlever. Bref, vous voulez nous parler de ces changements de
recommandations. Oui, donc ça fait une dizaine d'années, en fait, qu'on a droit à cette fameuse posologie ou toutes ces informations-là, là. En fait, dans le fond, c'est fait pour nous donner de l'information et nous aider à faire un meilleur choix. Mais je pense que, en tout cas, du moins, il y a 10 ans, quand c'est apparu ces étiquettes-là, c'était pas facile pour tout le monde de comprendre. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est pas encore facile de comprendre qu'est-ce qui est quoi, combien de grammes de fibres il faut que j'ai, puis le sodium, qu'est-ce que je fais, bon, tout ça. Santé Canada s'est un peu arrêté là-dessus, fait un bilan après 10 ans, puis a revu certaines petites choses pour justement...
Pour améliorer,
modifier,
pour que ce
améliorer,
soit plus...
Ouais.
OK, d'accord. Pour la compréhension, pour la bonne compréhension. Ah, c'est bien, ça.
Donc, je ne sais pas si, comme moi, je trouve un peu mélangeant les histoires de portions, dans le sens que si on achète, je donne un exemple, on achète un jus d'orange au dépanneur. Évidemment, la portion sur l'étiquette, ça va être une tasse. Mais le format de la boisson, c'est, je ne sais pas moi, 396 millilitres. C'est, quoi, là,
c'est souvent des
plus gros formats.
Ou
encore, ça va être une plus grosse portion de consommation. Donc, la portion habituellement consommée ne correspond pas à la portion qui est sur le... Donc, jus d'orange, encore une fois, on voit, c'est pas si pire. Dans le fond, c'est 30 grammes de glucides, bon, pour une tasse. Mais... Évidemment, il n'y a pas grand monde fermer la petite bouteille du dépanneur pour la remettre dans le frigo.
Ouais.
Tout ça. Donc, on se retrouve à peut-être consommer 45, voire 60 grammes de glucides en
d'un coup. Sans savoir.
Puis ça passe assez tout seul parce que c'est du jus, donc ça remplit pas.
Ça se boit bien.
C'est ça.
Comme nos martinis.
Voilà. On a déjà pas mal tout fini à part Mathieu.
Oui, dis donc! est-ce qu'on peut avoir un petit
pendant que Mathieu parle, nous, on buvait notre martini. Mais donc, voilà. Donc, il va y avoir un travail qui va être fait à ce niveau-là pour justement essayer de normaliser les portions des produits semblables, puis un peu essayer de se rapprocher un peu plus de la portion réelle de consommation. Donc, déjà, ça, c'est un point intéressant. C'est assez technique, mais bon, c'est intéressant. Les sources de sucre. En fait, moi, le point le plus intéressant et qui me touche énormément, c'est les sources de sucre. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ou si vous comprenez bien le tableau au niveau des glucides, mais on retrouve, on a tout d'abord la première ligne glucides et en dessous, on va retrouver les fibres et les sucres. Donc, les sucres, ça peut être le sucre naturellement présent comme dans un fruit ou ça peut être un sucre ajouté. Oui. Puis le résiduel, ça va être l'amidon, donc comme on va retrouver dans le pain, tout ce qui est farine, féculent.
Pommes de terre, tout ça, oui.
Exactement. Mais de faire la différence entre un sucre naturellement présent ou l'amidon versus un sucre ajouté, alors qu'on sait qu'on consomme énormément de sucre, ça va être intéressant de voir apparaître l'information sur le tableau. Donc, ça va s'ajouter à fibres, sucre. En fait, ça va être précisé la quantité de sucre ajouté. La chose qui me dérange beaucoup, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2003, avait recommandé fortement aux gens de limiter leur consommation à 10 % de l'apport en énergie totale. Fait que ça faisait en sorte que c'était... Techniquement, on ne devait pas consommer plus que 50 g de sucre ajouté par jour pour un adulte. Donc, sucre ajouté, on entend sucre blanc, mais aussi le miel, le sirop d'érable, glucose, fructose, là, toutes ces espèces d'autres sucres-là qui peuvent se retrouver dans la liste des ingrédients. L'année passée, ils ont réduit encore la recommandation à 5 % de l'apport d'énergie totale. Donc, si vous avez besoin de 2000 calories par jour, 5 % de ces 2000 calories-là devraient, maximum, devraient provenir des sucres ajoutés. Donc ça, en gros, ça fait 25 g ou 6 cuillères à café, l'équivalent de 6 cuillères à café de sucre par jour. Donc, c'est très peu. Surtout quand on sait que la consommation moyenne canadienne est à 110 g de non, mais ça, c'est de sucre total.
OK, total.
Total. Donc, sauf que ce qui est assez troublant, en fait, c'est que quand on fouille un peu sur le site de Santé Canada, on se rend compte qu'en ce moment, contrairement à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, ils disent qu'on peut consommer jusqu'à l'équivalent, en fait, qu'on ne devrait pas dépasser 25 % de l'énergie totale sous forme de sucre ajouté. Mais 25 % de
l'énergie... C'est 5 fois plus.
Mais oui,
c'est immense.
C'est énorme,
donc,
c'est exponentiel.
On revient aux mêmes 2000 calories exactement. Pour un adulte moyen, là, qui est un peu une recommandation bidon. Mais bon, si on se donne comme référence 2000 calories, c'est 125 g de sucre ajouté.
Oui.
Alors que l'Organisation mondiale de la santé nous dit 25.
Mais oui, non, t'sais. Non, ça n'a pas de bon
sens. C'est épouvantable de... Évidemment, on n'est pas obligé d'en consommer autant, mais c'est quand même assez épouvantable de lire sur le site de Santé Canada que c'est dans la recommandation...
Mais oui. Mais qui écrit ça? Parce que, je veux dire, ça met en colère d'entendre des trucs pareils.
Ben moi, ça met en colère profondément parce que je trouve que c'est une grosse, grosse bataille, le sucre. Puis, on voudrait pas non plus que, OK, là, on voit le sucre ajouté apparaître sur les étiquettes, mais moi, je voudrais pas que l'industrie, comme elle sait si bien le faire, se revire de bord puis dise, OK, bon, on va ajouter une nouvelle sorte de sucre, une autre molécule. Hein. Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a du lobbying derrière? Est-ce que c'est pour ne pas choquer certaines entreprises et compagnies? Non, regardez, non.
Je pense que
je vous pose la
couleur,
question.
Là.
Bon, d'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai parce qu'en plus, il y a autre chose comme... Oui, Mathieu, pardon.
En fait, j'avais une petite réflexion à ce niveau-là. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a impressionné. On parlait tout à l'heure des portions sur l'étiquetage.
Ouais.
Puis on se retrouve à avoir une impossibilité en tant que consommateur de comparer deux produits parce que
exactement.
J'achète des biscuits, mettons, puis j'ai un biscuit qui va me parler de l'étiquetage pour l'équivalent d'un biscuit qui pèse 30 grammes. Puis j'ai mon autre paquet de biscuits où c'est aussi un biscuit, mais il en pèse, je ne sais pas moi, 25. Alors, je ne peux pas vraiment comparer mes deux étiquettes.
Non, c'est ça.
Puis là, je fais la référence avec ce qui se fait, je pense, en Europe ou peut-être en France. Je vais parler de la France parce que je connais ça. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est que l'étiquetage se fait pour tous les produits pour 100 grammes. Alors, tous les produits, quels qu'ils soient, sont faits sur 100 grammes. Et à côté, on a une colonne pour 100 grammes et une colonne pour le poids du produit en tant que tel. Donc, ça permet une meilleure comparaison. Puis ça, c'est quelque chose qui est très difficile en tant que consommateur non averti ou non guidé par un nutritionniste de pouvoir comparer ça. Puis l'autre chose qu'ils ont tenté, je pense, je ne sais pas où s'en est rendu, mais ils ont tenté de faire un étiquetage beaucoup plus simple et visuel de couleurs, avec des pastilles de couleurs vertes, jaunes et rouges affichées sur les produits directement pour sensibiliser les produits. Et alors, ça a été un fiasco total parce que là, justement, le lobbying des grandes marques ont commencé à dire, mais là, moi, je vais sans le citer, la pâte à tartiner la plus,
populaire,
mais là, moi, je vais me retrouver avec une étiquette rouge sur mon pot. Ouais. Ça veut dire que, en gros, vous nous tirez dans le pied, etc. Ouais. Alors, alors que mon produit, c'est pas, on sait que c'est pas un produit qu'on doit consommer tous les jours. Et, ouais, ils mettaient l'argumentaire évidemment pour, mais ils se sont retrouvés confrontés à ça.
Mais c'est vraiment très très chouette comme intervention. Je voudrais savoir, au rebond, je prends ça, on s'adresse à qui avec ces étiquettes-là?
Je pense qu'on essaie de sensibiliser le plus possible la population en général, mais c'est sûr que, puis je pense que les gens sont de plus en plus informés, mais c'est toujours assez fascinant de quand je pose la question, tu sais, est-ce que vous comprenez ça, ou est-ce que, par exemple, est-ce que vous vous retrouvez dans le guide alimentaire canadien? Puis il n'y a jamais personne qui se retrouve ou qui se sent interpellé. Tu sais, fait que ça, finalement, il faut se poser la question. Puis ce qui est intéressant dans le processus quand même de Santé Canada, c'est qu'il y a un sondage. Donc, les gens peuvent se rendre sur le site.
Oui, parlons-en de ça.
Jusqu'au 11 septembre et soumettre leurs commentaires, justement. Est-ce que vous trouvez que telle modification est pertinente? Qu'est-ce que vous aimeriez voir à ce niveau-là? Donc, j'ai parlé des différentes portions pour essayer de normaliser un petit peu plus pour justement être capable de comparer entre produits semblables. Le pourcentage de la valeur quotidienne aussi, la petite colonne de droite qu'on peut voir, ça va changer aussi. C'est les valeurs vont être modifiées. Puis la présentation des éléments nutritifs va changer un petit peu, mais bref, les gens peuvent commenter sur les modifications qui sont déjà prévues ou sur leurs commentaires.
On fait comment pour pouvoir commenter?
En fait,
on
va sur le site de Santé Canada. En fait, moi, je vous conseille fortement d'y aller via Google. C'est beaucoup plus facile de trouver ce qu'on cherche sur le site de Santé Canada par Google que directement sur le site. mais si vous allez dans Google, Santé Canada, étiquetage nutritionnel, sondage, vous allez sans doute tomber sur le lien. Sinon, peut-être qu'on peut mettre le lien sur la page de l'émission.
C'est ce qui serait fait tout de suite après l'émission. Parfait. Soyez-en certaine.
Un lien direct. Mais sinon, par Google, c'est assez facile à trouver.
Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. On va continuer à aller magasiner, non seulement avec une calculette pour calculer les calories, la part de
puis
machin.
Aussi, en fait, moi, je vais beaucoup plus dans le... S'il y a trop d'ingrédients, déjà, c'est...
c'est un bon signe qu'il faut passer autre chose.
On passe au prochain. Déjà, on fait un bon filtre. Si on peut trouver des...
Avez-vous vu qu'ils mettent des loupes maintenant sur les caddies? J'ai vu ça avant-hier. Je suis allée celui qui a, vous savez, un sigle en forme de lettre, là, avec trois lettres, là, qui est juste à côté de chez nous. Oui, et bien, à un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et j'ai demandé à une petite madame qui me dit, mais c'est une loupe, parce que comme ça, je vois mieux les informations. J'ai dit, voilà autre chose.
Et bien, voilà.
Merci beaucoup, Catherine Lefebvre. Pourquoi je vais vous appeler l'évêque? Et je me dis, et au moment où je m'apprête à vous dire l'évêque, je vais dire, non, c'est pas l'évêque, c'est Lefebvre. Je ne sais pas si ma troisième invitée est arrivée. Elle est arrivée. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. On va lui demander de se joindre à nous. On va faire un petit pont musical, comme on dit dans le jargon radiophonique. Et on va faire rentrer Mademoiselle Simard.
Vous n'avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Ça y est, je le vois, veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. ramasser ce chien. Oh, ça y est, je le vois, c'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Satané Mirza.
Eh bien, si Mirza avait connu Émilie Rivard, d'ailleurs, je vous appelais Simard tantôt et je m'en excuse, si Mirza avait connu Émilie Rivard, elle se serait peut-être jamais sauvée comme ça et on n'aurait jamais eu le droit à la chanson de Nino Ferrer, Mirza, qu'on vient d'entendre sur les ondes de Canal M. Bonjour, Émilie Rivard.
Bonjour.
Émilie, je vous présente comment vous êtes d'abord éducatrice canin, parce que j'imagine que pour faire ce que vous faites, il faut bien connaître la jante canine, mais vous êtes aussi, votre activité principale maintenant, c'est la promenade. Vous nous les sortez, nos chiens. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, exactement. Donc, je suis promeneuse de chiens, effectivement, mm-hmm. mais j'ai effectivement fait des cours pour devenir intervenant canin, donc plus particulièrement coach en comportement canin.
Oui.
Et qu'est-ce qui est, en fait, comment on définit un coach? C'est, oui, intervenant, c'est-à-dire que s'il y a un problème de comportement, s'il y a des difficultés avec le chien dans la famille, quoi que ce soit, on est là pour intervenir, pour donner des conseils. Mm-hmm. Mais coach, c'est un petit peu plus large aussi, dans le sens qu'on est là pour supporter la famille tout au long de la vie du chien, dans le fond.
Mm-hmm. OK. Depuis le moment où on décide de l'adopter,
oui,
tout ce
exactement.
Qu'il faut faire et pas faire jusqu'à sa mort.
Exactement. Donc, oui, mon activité principale est de promener les chiens à la base, mais étant coach en comportement canin, je suis apte de vraiment bien conseiller les propriétaires, comme on vient de dire, vraiment de la première étape okay, jusqu'à d'accord. la fin pour vraiment bien choisir le chien mm-hmm. qui correspond aux besoins de la famille, dépendamment si c'est une personne seule, si c'est une personne en famille, c'est quoi leur activité, c'est quoi leurs besoins, etc. Et puis, pour bien les éduquer aussi, c'est quoi les bonnes choses qu'il faut faire étant mm-hmm. plus jeune pour bien vraiment commencer la vie du chien avec des bonnes habitudes, avec mm-hmm. une bonne structure de base et tout ça, pour vraiment le bien voir le chien évoluer. Mm-hmm. Et puis, évidemment, le promener, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important pour tous les chiens.
Parce qu'un chien fatigué est un chien heureux.
Exactement.
Vrai ou faux?
C'est vrai, oui.
Hein, c'est-à-dire, non, mais c'est vrai.
Ah oui,
oui. Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au témoin d'un doute, mais les petits kikis qui ne sont jamais assez sortis, quand on dit « Ah, les petits chiens, ça gueule beaucoup », en fait, ce n'est pas que ça gueule beaucoup, ils ne sont pas assez fatigués.
Exactement.
Alors, il faut que ça sorte, alors ils aboient, hein, c'est bien
oui.
ça. Alors que souvent, les chiens fatigués, ça rentre, puis...
Oui.
Ça se couche.
Exactement.
Et c'est bonheur total, quoi.
Oui.
Comment ça vous est venu, donc? J'imagine que vous êtes une passionnée au départ pour,
oui.
pour la race canine, c'est
oui.
sûr.
Oui, 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 beaucoup.
Depuis toute petite?
Depuis toute petite, j'ai toujours voulu travailler avec les animaux, en particulier avec les chiens.
Okay.
Mon rêve de base, en fait, c'était de devenir entraîneur pour la Fondation Mira.
Okay.
Et puis, bon, j'ai commencé par étudier en technique de bioécologie parce que, bon, je cherchais un peu une technique ou une étude qui aurait un lien avec ça. Mm-hmm. Et puis, bon, ça a quand même un lien.
Ouais, oui, c'est sûr.
Donc, la biologie et tout ça. Et puis, bon, mon parcours a fait que pour avoir un peu plus d'expérience pour aller travailler chez Mira, j'ai commencé par être promeneuse de chiens avec une autre entreprise.
Okay.
Donc, c'est là que j'ai un peu découvert ça. En fait, au début, je savais pas que ça existait comme mm-hmm. beaucoup de personnes. Et puis, j'ai vraiment aimé ça. Ça s'est développé, tout ça. Puis, à un moment donné, j'étais rendue au carrefour de « Est-ce que je continue toute seule de mon côté avec ma propre compagnie ou si je vais faire mon
oui.
rêve de jeunesse et d'aller mmh. travailler chez Mira? » Et bon, avec plusieurs choses, avec plusieurs facteurs et bon, la vie et tout ça, bon, j'ai pris la décision que finalement, j'allais continuer dans la voie de promenade de chiens.
Okay.
Et les deux auraient été une bonne option. Mmh. Mais je suis vraiment contente du choix que j'ai fait.
Parce que où est-ce qu'on peut étudier Parce que bon, j'imagine qu'il y a des cours d'éthologie canine, il y a des cours, mais est-ce qu'il y a une école?
Il n'y a pas d'école en tant que telle de promeneur de chiens. C'est ça qui est un petit peu difficile, mais il y a beaucoup, beaucoup d'écoles pour justement le comportement canin. Par contre, dans l'école de comportement canin, justement, il y a beaucoup de styles d'écoles différents avec beaucoup de styles de pensée différentes. Ouais. Donc, quand on rentre un peu dans le milieu puis qu'on commence à s'intéresser à ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de contradictions et mon Dieu, c'est un monde un peu controversé sur certains sujets. Mais bon, dans le fond, mon but à moi, c'est que j'ai étudié dans une école de renforcement positif, évidemment, avec le docteur comportementaliste Joël Dehaas qui vient de la Belgique.
Oui.
Mais j'ai aussi, je me suis renseignée et je me renseigne toujours, toujours, parce que je veux toujours en savoir plus.
Ben oui.
Mais à partir aussi de d'autres écoles de pensée qui sont pas nécessairement pareilles. Donc, dans le fond, moi, mon but, c'est vraiment de regarder au large de comment les gens ils fonctionnent, comment ils pensent, pourquoi ils pensent comme ça, c'est quoi leur expérience, qu'est-ce qui a marché pour quelqu'un, qu'est-ce qui a marché pour quelqu'un d'autre.
Bien sûr.
Parce que, bon, évidemment, chaque chien a leur personnalité respective et un truc n'est pas applicable à tous les chiens.
Ça, et chaque chien a son passé aussi.
Ah oui.
Et on ne le connaît pas forcément. Et c'est
exactement,
ça qui est un peu difficile.
Exactement.
Bon, revenons à la promenade en tant que telle.
Oui.
Est-ce que, bon, promener un chien tout seul ou promener un chien en groupe? Est-ce qu'il y a une différence?
Oui, il y a une très grosse différence. Bon, premièrement, une promenade individuelle, la plupart des gens, bon, font ça pas vraiment avec de structure, souvent en parlant au cellulaire ou, tu sais, pas vraiment en bâtissant un lien direct avec l'animal. J'offre aussi des promenades individuelles si l'horaire le permet, mais la grosse différence, c'est que l'énergie du groupe va vraiment influencer les chiens. Donc, si je peux un peu mieux m'expliquer, c'est que si on promène, par exemple, 2-3 chiens, même 4 chiens en même temps, je dirais que c'est presque équivalent à une promenade individuelle. Quand on commence à promener, par exemple, 6, 7, 8, 9 chiens en même temps, là, ça devient vraiment un groupe, puis l'énergie du groupe vraiment change. Donc,
c'est vraiment une meute,
exactement. Puis, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que, par exemple, un chien qui a un problème quelconque, exemple, il est anxieux durant la promenade, il est nerveux, il est réactif quand il voit un autre chien dans la rue, il est réactif par rapport aux choses, écureuils, il veut courir après, peu importe le problème, c'est sûr que tous les chiens du groupe ne sont pas comme ça. Donc, quand il y a un chien qui est réactif d'une certaine façon, mais qui est dans un groupe équilibré, l'énergie au complet de la meute, si on peut dire, va vraiment influencer de façon positive le chien qui est à travailler.
Et non pas le contraire.
Et non pas le contraire, effectivement.
C'est ça qui est chouette.
C'est sûr que pour ne pas faire le contraire, il faut avoir une certaine structure et discipline et tout.
Oui. Mais... Est-ce que vous vous sentez comme un chef de meute quand vous les promenez?
Oui, au sens positif du terme.
Au sens positif du terme, bien
oui,
sûr.
Oui, de façon leader, mais de façon, c'est ça, qu'on guide le chien vers l'action voulue. C'est sûr que, comme je disais, il y a plusieurs écoles de pensée, mais dans le fond, on donne toujours le choix au chien. On lui indique la voie à suivre, puis on récompense, dans le fond, l'action voulue.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est comme ça qu'on dit qu'on est des leaders, jusqu'à un certain point que, justement, comme je disais, il faut quand même qu'il y ait une certaine structure. Donc, si, par exemple, on voit qu'un chien dérape ou, tu sais, donne pas l'action voulue, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut mettre un stop pour pas, justement, que tout le groupe soit affecté.
Vous devez être une fille drôlement en forme, vous, parce que vous avez les combien de kilomètres par jour avec cette affaire-là?
ça dépend des jours, mais c'est autour de 15 kilomètres par jour.
Parce que vous avez plusieurs groupes. Vous avez combien de clients, à peu près?
Autour d'une trentaine.
Autour d'une trentaine.
Il y en a des réguliers, c'est-à-dire du lundi au vendredi à chaque semaine. Il y en a des occasionnels qui sont là, peut-être, mettons, juste 2 ou 3 fois par semaine. Ou il y en a sur appel aussi.
Et chaque promenade dure combien de temps?
Entre 45 minutes et 1 heure, donc entre 4 et 5 kilomètres, dépendamment de la température et tout ça.
Est-ce que quand vous croisez d'autres chiens qui sont, par exemple, libres, parce que ça arrive quand on va dans certains coins de Montréal, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense au Summit, par exemple, où les chiens peuvent marcher en toute liberté et que les autres sont attachés, ça ne vous pose pas de problème? Parce qu'on sait que... Ça peut créer des frictions. Hein?
Oui, en fait, premièrement, je travaille sur la rive sud de Montréal, donc Saint-Lambert, okay. Longueuil et Boucherville. Mm-hmm. Donc, j'essaie toujours d'aller dans des places où les chiens ne sont pas supposés être libres.
Okay.
Donc, c'est sûr que quand un chien arrive en courant vers nous pour nous sentir sans laisse, évidemment, ça crée de l'excitation, mais en général, tout se passe bien parce que les chiens, en général, ont une base de pacifique, mm-hmm, c'est-à-dire, mm-hmm. C'est ça, ils veulent jamais vraiment de bataille. Donc, ça se passe bien, mais c'est sûr que c'est pas souhaité. Mm. Donc, je vais toujours marcher dans des rues résidentielles, quoi que ce soit, qu'en théorie, il n'est pas supposé avoir de chien lousse.
Ce que vous êtes en train de nous dire, et ça, c'est important, c'est que si les hommes étaient... je vais le dire autrement. Le chien est beaucoup moins belliqueux que l'être humain.
En général, on
se taperait beaucoup. Non, parce que souvent, tu sais, on parle d'accident, le chien, il a mordu la petite fille et tout.
Ah, il y a toujours
une cause. Mon Dieu, c'est ça, c'était l'être humain, ça fait. C'est pas une petite fille, c'est à peu près des milliers de petites filles qui auraient été mordues. Mathieu, vous avez
une question. Moi, j'avais deux questions. Alors, oui? La première, c'est. Et là, je suis très naïf là-dedans, j'ai toujours eu des chiens, mais. Est-ce que, admettons, on fait appel à vos services pour sortir marcher les chiens?
Oui.
Si le chien est constamment sorti par une personne autre que le maître régulier du chien, est-ce qu'il pourrait y avoir un risque sur le comportement ou l'obéissance du chien envers son maître?
Pas nécessairement. En fait, on peut voir ça un peu comme une garderie,
okay,
dans le sens que les chiens sont en groupe durant la journée, ils vont aller voir les autres amis, ils vont aller marcher ensemble, ils vont aller se faire plaisir de l'exercice et tout ça. Puis en revenant à la maison, c'est comme de revenir avec papa et maman.
Okay.
Chose qui est importante, par exemple, à savoir, c'est que c'est pas parce que je le promène qu'il va nécessairement écouter à la maison. C'est-à-dire que le chien est quand même, a quand même l'intelligence environ d'un enfant de 2 à 3 ans et il sait très bien qu'avec une certaine personne, il a le droit de faire ça, avec telle autre, okay, personne, il n'a pas le droit.
Il est capable de faire la différence.
Exactement. Donc,
il nous reste 2 minutes, oui, mes enfants, parce que vous avez une autre question,
Ma dernière
Mathieu.
Question, c'est très rapide. Oui. Est-ce que c'est toute l'année?
Oui, c'est toute l'année.
Moi aussi, même c'est ça.
Ah, voilà, ça, oui, hein, l'hiver aussi.
Pluie, verglas, oui, neige.
Oui. C'est là où il y a le plus de clientèle, l'hiver. Moi, je veux rester au chaud.
Attendez, comment vous faites sur le verglas là, quand ça glisse et que vous en avez 10?
Dans ce temps-là, mon meilleur ami, c'est des crampons.
Bien sûr, oui. Non, en tout cas, mais je trouve ça courageux. Comment peut-on vous joindre? Comment s'appelle votre organisme?
Chien Sourire, donc vous allez au www.chiensourire.com.
Chien Sourire au singulier?
Au chien singulier.
Ah, oui. C'est joli! Au chien gulier.
Exactement.
OK.
Chien Sourire
chaque
en
promenade
mot.
Dure combien de temps?
Entre 45 minutes à 1 heure.
OK.
De 4 à 5 kilomètres.
OK.
C'est des promenades de groupe et j'offre aussi d'autres services que vous allez pouvoir voir sur le site Internet.
D'accord. Les tarifs, en gros?
C'est 17 $ par promenade et si vous prenez toute la semaine, c'est 70 $. Donc, vous économisez un peu d'argent.
Et vous êtes toute seule?
Taxes comprises et
vous
tout ça.
Vous êtes toute seule pour l'instant dans votre groupe?
J'ai une employée avec moi qui s'appelle Mylène Boudreau et qui est excellente.
Alors, je vais vous souhaiter bon courage, bonne chance. Ça doit vous sembler bon en ce moment d'aller promener les chiens. Moi, il me semble que tu sais, annoncer verglas pendant une semaine. Oh mon Dieu, ma terreur. Nous sommes au regret de vous annoncer que les chiens ne vont pas sortir.
On annule dans des cas extrêmes, par contre.
Alors, je vous rappelle son nom, Émilie Rivard. Rappelez-nous le nom de votre organisme.
Chien Sourire.
Chien Sourire. Vous faites Chien Sourire sur Google, vous allez trouver ça facilement. Merci beaucoup à tous mes invités aujourd'hui. Catherine, que j'ai encore failli appeler l'évêque Lefebvre, était la nutritionniste Mathieu Drujon et Émilie Rivard. Merci beaucoup Martin Dupuis d'avoir été là et de nous avoir accompagnés aussi à cette émission. C'était Clotilde Say qui vous souhaite une très belle fin de semaine, qui vous donne rendez-vous pour l'émission au quotidien lundi prochain à 10h. Salut!